France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mère vous fasse. Et ce matin, coup de projecteur sur une maladie au nom connu, mais en réalité méconnue, la maladie de Parkinson. 25 000 nouveaux cas chaque année en France, entre 150 et 200 000 personnes touchées dans notre pays. Alors quels sont les symptômes? Quelles sont les causes connues de cette pathologie invalidante? Quelle est la part héréditaire? Quelle est la part liée à l'environnement? Quel est l'impact de la maladie sur la vie quotidienne? Quels sont les traitements actuels et les pistes de recherche prometteuses? Bref, la maladie de Parkinson au-delà des clichés. Une émission en partenariat avec l'émission Enquête de Santé diffusée demain soir sur France 5. Toutes vos questions et vos témoignages sur la maladie de Parkinson au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode
d'emploi. France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
10 ans après le diagnostic, quels sont vos symptômes aujourd'hui, Sylvie ?
Les angoisses, je marche de travers, j'ai du mal à me concentrer, le corps est emprisonné avec une prise de cachet régulière, donc on est un peu en prison.
Tous les gestes me demandent un effort. Il faut que je calcule tout, il faut que j'anticipe tout. C'est ingérable pour la vie quotidienne et y compris pour travailler.
Parkinson, ce sont des symptômes et des traitements lourds, mais c'est aussi la recherche qui progresse et la neurochirurgie qui change la vie de certains malades.
Je sais que c'est la solution. C'est la solution qui va me permettre, pas de guérir, puisqu'on n'en guérit pas, mais de recommencer à vivre.
Cathy, Sylvie, Valérie, Guillaume, Anthony et Bertrand sont les visages de la maladie. En partageant nos histoires, mon objectif est simple et complexe à la fois, transmettre de l'espoir.
Extrait de l'excellent documentaire Nos vies avec Parkinson qui sera diffusé demain soir à 21h sur France 5. Bonjour Joseph Coria.
Bonjour Ali.
Vous avez réalisé ce documentaire qui sera donc diffusé dans le cadre de l'émission Enquête de Santé animée par Marina Carrère-Dancos. Vous êtes vous-même atteint par la maladie de Parkinson. Bonjour docteur Alexis Elbaz.
Bonjour.
Vous êtes neurologue et épidémiologiste, directeur de recherche à l'INSERM et vos recherches portent notamment sur le vieillissement du système nerveux central, notamment à travers l'étude des facteurs de risque et des facteurs influençant le pronostic de la maladie de Parkinson. Bonjour docteur Marie-Laure Velter.
Bonjour.
Vous êtes neurologue et neurophysiologiste, responsable du service de neurophysiologie au CHU de Rouen et vous développez de nouvelles thérapies au sein de l'Institut du cerveau. Joseph Coria, l'un des grands intérêts de votre documentaire, c'est de montrer la réalité de la maladie de Parkinson, loin, très loin des clichés qui réduisent la maladie à des tremblements.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a voulu faire en premier lieu avec mon complice Guillaume Leblond. C'était démystifier un peu cette maladie. Et il y a deux clichés sur lesquels on voulait appuyer. C'est tout d'abord effectivement les symptômes. On pense que c'est une maladie qui se résume aux tremblements, alors qu'il y a toute une palanquée de symptômes qui sont aussi bien cognitifs que moteurs.
C'est vrai qu'on se souvient des images spectaculaires du boxeur Mohamed Ali, du pape Jean-Paul II, ouais, ou encore de l'acteur américain Michael J. Fox.
Oui, tout à fait. Alors que les cas sont très variés. En fait, on pourrait limite parler de spectre parkinsonien, tellement il y a de cas différents et de symptômes différents, de manifestations de la maladie différentes. Et le deuxième cliché sur lequel on voulait appuyer et raconté un peu dans le documentaire, c'est que c'est plus du tout une maladie de personnes âgées. L'âge moyen du diagnostic ne fait que baisser en France. Il est aujourd'hui autour de 58 ans.
Et on va essayer de comprendre pourquoi au cours de cette émission. Docteur Alexis Elbaz, vous êtes d'accord? On réduit bien trop souvent la maladie de Parkinson au tremblement?
Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, tous les patients ne tremblent pas. Et les patients sont parfois surpris quand en consultation, on leur annonce ce diagnostic alors qu'ils n'ont pas de tremblement. Et puis, il y a toute une série de symptômes qu'on appelle non moteurs, qui peuvent d'ailleurs même précéder le diagnostic de maladie de Parkinson de nombreuses années avant, comme par exemple des troubles du sommeil très particuliers, la constipation, l'anxiété, la dépression. Et tous ces symptômes non moteurs qui accompagnent la maladie sont en fait aussi très gênants et sont souvent un peu négligés. Donc,
Docteur Marie-Laure Welter, c'est l'anglais James Parkinson qui décrit pour la première fois en 1817 cette nouvelle maladie, la maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative progressive. C'est une maladie caractérisée par la destruction de certains neurones cérébraux et l'accumulation d'amas protéiques toxiques pour les cellules nerveuses.
Tout à fait, c'est la destruction des cellules qui fabriquent la dopamine, qu'on appelle donc les cellules dopaminergiques, qui sont situées dans une petite région cérébrale qui s'appelle la substance noire. Et on retrouve dans ces cellules, aussi ailleurs dans le cerveau, ce qu'on appelle des corps de Lévy, avec à l'intérieur une protéine qui s'appelle l'alpha-synucléine, et qui serait un facteur précipitant de dégénérescence neuronale dans cette pathologie.
Quel est le rôle de la dopamine dans la maladie de Parkinson ?
Alors la dopamine, c'est
expliquez d'abord ce qu'est la dopamine.
La dopamine, c'est un neurotransmetteur, et dans la maladie de Parkinson, c'est dans un certain réseau que cette dopamine va dégénérer, enfin que ces neurones vont dégénérer, ce qu'on appelle la voie nigro-striatale. Et cette voie, en fait, elle est impliquée dans le fonctionnement de structures cérébrales profondes, qui s'appellent les noyaux gris centraux, et qui sont impliquées dans des comportements surtout automatiques.
Par exemple,
tous les automatismes moteurs, comme la marche, comme écrire, quelque chose qu'on apprend aussi, tout ce qui a à voir avec l'apprentissage. Et donc toutes ces activités motrices qu'on fait sans y penser.
On va beaucoup parler de la dopamine. Rappelez le rôle essentiel de ce neurotransmetteur, Alexis Elbaz.
Ben c'est un neurotransmetteur, comme vient de dire Madame Welter, qui est impliqué dans la transmission et qui permet le contrôle des noyaux gris centraux par la substance noire. Et donc, quand ces neurones dégénèrent, donc il n'y a plus de contrôle sur les noyaux gris centraux, et c'est là où les symptômes apparaissent.
En tout cas, Joseph Coria, votre documentaire est un documentaire rempli d'espoir, parce qu'on y voit des témoins qui se battent, et notamment, on verra l'une des patientes qui bénéficie de certaines recherches innovantes.
Oui, vous parlez de Cathy qui quand on est allé filmer, son opération, donc une stimulation cérébrale profonde. Il faut savoir qu'elle, elle souffrait donc de symptômes très, très handicapants et en plus d'effets secondaires des médicaments, puisqu'ils peuvent se développer de nombreux effets secondaires à la longue avec la prise de dopamine en cachet. Et donc on est allé filmer son opération à Rouen, au CHU de Rouen. Et donc elle consiste à implanter des électrodes dans le cerveau, dans une zone qui s'appelle le noyau sous-thalamique. Et c'est des électrodes qui vont être reliées avec une pile placée sous la clavicule et qui vont permettre de réguler un peu ses symptômes et les effets secondaires. Et c'est sûr que c'est assez magique, puisque même si cette opération elle concerne malheureusement que 15 à 20% des malades, elle permet de retarder la progression de la maladie de manière significative.
Ce qui est intéressant dans votre documentaire, Joseph Coria, c'est la grande variété des malades de Parkinson.
Oui, c'est ce qu'on cherchait à faire et à montrer. C'est pour ça qu'on est allé voir aussi des jeunes. Il y a un malade de 36 ans, un autre de 42 ans. Il y a des hommes, des femmes. Parce que
à divers stades de
la maladie. Oui. Et on a vu par exemple une dame, Valérie, qui s'est fait opérer il y a 2 ans de stimulation cérébrale profonde, et on voit les effets bénéfiques qu'il y a eu sur elle à long terme. C'est ça qu'on voulait montrer, c'est tout ce scope de malades et de cas pour en montrer qu'encore une fois la maladie de Parkinson elle est très très variée.
Vous, Joseph Coria, vous êtes donc atteint de la maladie de Parkinson. Comment l'avez-vous détecté ? Qui l'a détecté ? Comment vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?
Ben, je m'en rends compte parce que tout simplement ma main gauche se met à trembler un été, donc à l'été 2020. Et donc je comprends assez vite que ça pourrait être ça.
Parce que vous avez des antécédents ?
Oui, oui, j'ai des antécédents dans la famille. Donc je connaissais déjà cette maladie. Et donc je me fais diagnostiquer assez vite de Parkinson à la rentrée 2020, et surtout après j'interprète des symptômes qui étaient apparus bien avant.
Par exemple
Des raideurs musculaires, des raideurs à la jambe gauche quand je courais, ou une fatigue chronique, et j'ai réinterprété ces facteurs-là comme des symptômes de la maladie. Mais c'est évidemment le tremblement qui m'a mis tout de suite sur le chemin de Parkinson.
Vous êtes jeune, vous l'avez dit, la détection en moyenne de la maladie de Parkinson, c'est autour de...
Maintenant, c'est descendu en dessous de 60 ans.
Voilà, en dessous de 60 ans. Comment vous prenez cette nouvelle-là, Joseph Coria, quand ça vous arrive psychologiquement ?
Mais écoutez, j'ai la chance d'avoir une progression assez lente. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, ben, On verra, j'ai le temps de penser. Pour l'instant, c'est pas trop handicapant, j'arrive à faire mon travail. Ça a pas handicapé ma vie sociale, ma vie professionnelle. Donc j'ai cette chance-là. Mais c'est sûr que plus ça va, c'est une maladie assez sournoise et conquérante. Donc je sais qu'un jour ou l'autre, les choses se gâteront.
Sournoise et conquérante, nous dit Joseph Coria, Marie-Laure Welter.
Faudrait expliquer peut-être derrière ces mots ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une progression des symptômes.
Voilà, c'est ça. Et...
qui va se faire de façon petit à petit.
Oui, inexorable.
Oui.
Alors, bien sûr, il y a les traitements médicamenteux qui permettent un peu de modérer ces symptômes au départ. Ce que les médecins appellent souvent la lune de miel. On arrive à trouver le bon dosage. Mais après, l'accoutumance fait que ces médicaments peuvent être de moins en moins efficaces.
Allez-y, pardon.
Il y a une évolution, il y a une progression des symptômes, puisque c'est une maladie neurodégénérative. Donc la mort cellulaire va poursuivre son chemin. Et il va y avoir d'autres systèmes qui peuvent être touchés, pas seulement les systèmes de la dopamine, avec d'autres symptômes qui apparaissent. Et en fait, les traitements qu'on va donner vont améliorer, comme vous l'avez dit, de façon symptomatique. Ça veut dire que ça va améliorer les symptômes. On va remplacer l'absence de dopamine intracérébrale par des cachets qui vont faire qu'on va avoir de la dopamine, qui vont se transformer en dopamine dans le cerveau ou vont agir comme de la dopamine.
Ce sont des médicaments compensateurs.
C'est ça, tout à fait.
Bonjour docteur Adrien Chaboch.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de votre chronique Quoi de neuf docteur vers 11h20?
Eh bien aujourd'hui, on parle de maladies qui touchent le corps et l'esprit. Alors je me suis interrogé, est-ce qu'on peut dire qu'il existe une médecine psychosomatique?
Ali Rebéi. Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Quels espoirs contre la maladie de Parkinson? C'est notre thème ce matin avec l'émission Enquête de santé qui sera diffusée demain à 21h sur France 5. Docteur Alexis Elbaz, vous vouliez revenir sur les chiffres de la maladie de Parkinson. En début d'émission, j'ai donné ce chiffre de 150 000 à 200 000 malades dans notre pays, une fourchette large. Vous vouliez apporter des précisions?
Alors oui, bien sûr. Juste pour expliquer que on a des estimations en France sur la fréquence de la maladie de Parkinson. Donc, on estimait en 2010 qu'il y avait environ 150 000 patients. Et puis aujourd'hui, en 2025, on serait plutôt autour de 200 000 patients. Donc, une augmentation de 50 000 patients en 15 ans qui est due à deux choses. En fait, d'une part, le vieillissement de la population, c'est-à-dire qu'on vit plus longtemps, donc il y a plus de personnes âgées. Donc, c'est une maladie quand même qui est liée à l'âge. Donc, plus de patients. Et aussi, les patients vivent plus longtemps avec la maladie en raison d'un allongement de l'espérance de vie. Et donc, non seulement, et c'est important donc à deux titres, parce que non seulement à l'avenir, il va y avoir plus de patients qui vivent avec cette maladie, et donc ça impose au système de soins une tension. Le nombre de neurologues ne change pas, donc il va falloir prendre en charge ces patients.
Mais il n'y a clairement pas assez de neurologues.
Alors, à l'avenir, je pense qu'il va y avoir des maladies très liées à l'âge pour lesquelles voilà, la question va se poser. Et puis, les patients vont vivre aussi plus longtemps avec la maladie. Et plus longtemps, ça veut dire avec des formes plus évoluées et plus difficiles à traiter. Et donc, c'est ces deux choses qui sont importantes à réfléchir.
Docteur Marie-Laure Welter, des précisions?
Oui, tout à fait. En fait, on voit bien qu'avec l'évolution quand même de la prise en charge des patients, les patients vont vivre plus longtemps. Même si l'espérance de vie d'un patient qui a une maladie de Parkinson est un peu inférieure à celle d'une personne qui n'a pas la maladie, ces nouveaux traitements qui sont soit médicamenteux, soit chirurgicaux, que vous avez évoqués tout à l'heure, permettent d'allonger la vie des patients avec meilleure qualité de vie aussi quand même.
Alors, docteur Marie-Laure Welter, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la maladie de Parkinson pour ceux qui nous prennent en route?
Oui, tout à fait. Donc, c'est une maladie neurodégénérative. Ça veut dire qu'il y a des neurones, des cellules cérébrales qui vont mourir. Et en fait, ces cellules sont principalement celles qui contiennent de la dopamine. Et la dopamine, elle est très importante pour toute notre activité qu'on appelle automatique. C'est-à-dire qu'on fait sans réfléchir, que ce soit moteur ou émotionnel ou même intellectuel.
Alors, c'est donc une maladie chronique d'évolution lente et progressive. Quels sont les symptômes de la maladie de Parkinson? Tout d'abord, je crois savoir que les patients restent asymptomatiques jusqu'à ce que 50 à 70% des neurones à dopamine soient détruits et que le cerveau ne puisse plus compenser cette perte.
Voilà, tout à fait. En fait, on parle maintenant de phase prodromique ou pré-symptomatique, puisque en fait la maladie de Parkinson, elle a été définie sur l'existence des signes moteurs. de soit ce tremblement, mais surtout cette lenteur, cette difficulté à bouger ou cette rigidité que vous avez pu décrire. Et en fait, on se rend compte que les patients ont plein de symptômes des années avant l'apparition de ces premiers signes moteurs qui vont permettre le diagnostic.
Alors, il y a des symptômes moteurs, on l'a dit, rigidité des membres, lenteur des mouvements, tremblement.
Tout à fait.
Et puis des symptômes non moteurs. Pouvez-vous les rappeler ?
En fait, il y a tout un panel de symptômes qui vont toucher différentes fonctions, que ce soit le sommeil, par exemple. Mm-hmm. Il y a ce qu'on appelle les troubles du sommeil paradoxal. C'est-à-dire que ce sont des patients qui, dans les phases de sommeil, qui est ce sommeil paradoxal où il y a une activité de rêve, ils vont avoir des comportements, ils vont parler, ils vont bouger, alors qu'ils sont en train de dormir ou en train de rêver. Donc ce qu'on appelle les troubles du sommeil paradoxal. Il y a des symptômes qui vont toucher plutôt la sphère émotionnelle, les troubles anxieux, la dépression, ou des symptômes qui vont plutôt toucher tout ce qui est digestif, avec la constipation, comme évoqué tout à l'heure, et aussi les troubles de l'odorat, des patients qui vont décrire des années avant les premiers signes moteurs des difficultés d'odorat.
Joseph Coria, vous avez réalisé le documentaire « Nos vies avec Parkinson ».
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que je me suis servi de mon cas pour capter l'attention en début de documentaire. Mais mon but, c'était de montrer tout ce panel, tous ces différents symptômes.
Est-ce que les patients que vous avez rencontrés souffrent de ces clichés liés à la maladie de Parkinson qui est trop souvent réduite au tremblement ?
Ben justement non. Les six malades qu'on rencontre dans le documentaire, et personne ne tremble finalement. Ouais. Donc ils ont tous de différents symptômes, les raideurs, la lenteur, les troubles du sommeil. Et puis après, les effets secondaires des médicaments.
On va revenir sur ces effets secondaires. Pourquoi le diagnostic de la maladie de Parkinson reste assez délicat, docteur Alexis Elbaz ?
Alors, d'abord, comme on vient de le dire, les symptômes apparaissent très progressivement, en fait, sur une longue période. Et finalement, quand les patients s'en rendent compte, les symptômes sont déjà assez avancés. D'ailleurs, on sait par exemple, comme on l'évoquait tout à l'heure, au face de la phase prodromale dont parlait le docteur Walter, les patients, par exemple, tombent plus souvent. Il y a des études qui montrent qu'il y a des fractures plus souvent. Donc, ça veut dire que les symptômes sont déjà là, mais les patients ne les ont pas vraiment identifiés. Et puis, finalement, les patients sont amenés à aller chez le neurologue, par exemple, en raison du tremblement. Et là, bon, je pense que le diagnostic finalement n'est pas très difficile. Il y a toujours en revanche le risque de se tromper avec d'autres maladies qui sont plus graves, qui peuvent être accompagnées d'autres symptômes. Et c'est là où c'est pour cette raison que c'est important quand même pour faire le diagnostic de maladie de Parkinson d'aller voir un neurologue qui connaît bien cette maladie, justement pour éviter les erreurs diagnostiques et de donner un traitement ou de ne pas faire le diagnostic, par exemple.
Quel type d'erreur diagnostique, docteur Walter ?
En fait, il y a d'autres maladies neurodégénératives au cours desquelles il y a des symptômes comme la maladie de Parkinson. Mais vont s'y associer d'autres signes et en fait la prise en charge est quand même pas tout à fait la même.
Est-ce qu'il existe des analyses biologiques ou des IRM pour détecter Parkinson ?
Alors, souvent, les patients viennent d'ailleurs avec une IRM cérébrale qui est normale, parce qu'en fait, de façon structurelle, quand on va faire une IRM en ville, il n'y aura pas d'anomalie. En fait, nous, on fait un diagnostic clinique. Le diagnostic de la maladie de Parkinson repose sur l'examen clinique.
Qu'est-ce que vous faites concrètement ?
Eh bien, on va d'abord l'interrogatoire, savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive. Il y a un critère qui est assez important, c'est le fait que ce ne soit pas symétrique. C'est-à-dire que ça touche essentiellement d'abord une partie du corps avant d'aller toucher l'autre partie dans la progression. Et puis, on va rechercher cette rigidité, on va rechercher cette lenteur et on va rechercher ce tremblement qui est une caractéristique, qui est ce qu'on appelle un tremblement de repos. C'est-à-dire qu'il va surtout survenir quand le patient est au repos. Et pour le rechercher, par exemple, on va lui demander de faire autre chose, de détourner son attention pour voir apparaître ce tremblement.
Joseph Coria, comment s'est passé votre diagnostic de la maladie de Parkinson ?
Exactement comme ça, en décrivant mes symptômes en premier lieu, et puis après en faisant toute une série d'interrogatoires et de tests, ce que d'ailleurs je suis amené à refaire tous les ans, pour suivre l'évolution de la maladie et la progression des symptômes.
Et c'est votre généraliste qui vous a orienté vers un neurologue ou vous êtes allé directement chez le neurologue ?
Oui, c'est le généraliste en premier lieu, et après un neurologue Et j'ai fait une IRM, une batterie de test, et puis après c'était vraiment sur la description des symptômes, quoi.
Le regard du généraliste Adrien Chaboche.
Oui, il y a beaucoup de patients qui viennent me voir et qui me demandent, mais puisqu'on sait maintenant qu'il y a des symptômes qui apparaissent assez rapidement, est-ce qu'il y aurait des moyens de faire un dépistage secondaire, c'est-à-dire dès lors que les symptômes seraient déjà au tout début, et beaucoup me demandent si on peut doser la dopamine. Alors effectivement, comme vous venez de le dire, mais peut-être ça va éclaircir, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur ça.
Ça, je l'entends souvent, ça. Je me suis fait doser le taux de dopamine pour essayer de savoir si j'ai une maladie type Parkinson.
Alors, est-ce que souvent les patients arrivent avec ce qu'on appelle un DAT scan, qui va mesurer effectivement la transmission de la dopamine au sein de ce réseau. Et on va pouvoir regarder s'il y a une diminution de cette transmission qui signe en fait l'atteinte de ces neurones qui fabriquent la dopamine.
Joseph Coria.
Oui.
Je pensais que vous vouliez intervenir.
Non, je crois que vous intervenir.
Allez-y, docteur Elbaz.
Sur le fait que c'est exactement comme ça, mais il y a aussi des pistes de recherche, et là on parle plutôt de l'avenir. Et l'avenir, donc, c'est améliorer la prise en charge, mais aussi arriver à prévenir peut-être la maladie chez des personnes qui sont à risque. Et une des manières qui est à l'étude, c'est de doser l'alpha-synucléine, donc la protéine dont parlait tout à l'heure le professeur Welter. Donc on peut maintenant mesurer, on sait que l'alpha-synucléine, donc, est cette protéine qui s'agrège de manière anormale dans la maladie de Parkinson. Il y a des premières études qui ont permis de la mesurer dans le liquide céphalo-rachidien qui entoure le cerveau, mais maintenant on sait qu'on peut la mesurer dans la peau ou dans le sang. Et donc il y a beaucoup d'études sur ce biomarqueur, et c'est quelque chose où, voilà, il y a beaucoup d'intérêt à l'avenir pour ça.
Comment expliquer cette dégénérescence de ces neurones à dopamine? Quels sont les facteurs de risque de la maladie de Parkinson? Quelle est la part héréditaire, la part génétique, professeur Welter?
Alors, on décrit classiquement qu'il y a environ 10% dans les formes les plus jeunes de formes génétiques. En fait, dans la majorité des cas, on est dans une forme dite sporadique. Et donc pas dans une forme génétique à proprement parler. Après, il y a des facteurs de risque génétiques qui vont sous-tendre le fait que vous allez être plus sensible à un environnement pour ensuite développer cette maladie.
Mais concrètement, si mes parents ou mes grands-parents sont atteints de la maladie de Parkinson, quels sont les risques d'être moi-même touché?
La proportion des maladies génétiques, donc je vous dis c'est 10% des plus jeunes. Après, ça va dépendre du type, s'ils sont tous les deux touchés, la forme, et à ce moment-là on fait une enquête génétique pour rechercher l'anomalie génétique.
Docteur Alexis Elbaz.
Oui, la part, donc il y a des facteurs, il y a des formes familiales qui sont quand même très rares, et même il y a des formes familiales où on pense qu'il y a peut-être un gène impliqué, mais on ne trouve pas de gène, donc il y a des recherches pour ça.
Il n'y a pas de gène impliqué.
Alors on ne trouve pas de gène, donc dans l'état actuel, il y a des
familles. De la connaissance.
Il y a des gènes qui sont connus, qui sont impliqués dans la maladie de Parkinson, il y en a plusieurs. Oui. Et régulièrement, on va retrouver ou découvrir une nouvelle, dans une famille, rechercher certaines anomalies génétiques.
Mais ces formes familiales sont beaucoup plus fréquentes chez les patients qui ont des formes à début jeune. Et donc c'est dans ces cas-là où on va refaire des recherches génétiques. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne trouve pas toujours des gènes, en fait, même dans les formes familiales.
Alors, quels sont les facteurs de risque environnementaux? Joseph Coria, il y a des témoignages assez édifiants dans votre documentaire.
Oui, tout à fait. Notamment celui de Marie Dupin, qui est journaliste à France Info, dont la maman a vécu 20 ans avec la maladie et qui enquête là-dessus depuis quelques années. Et on est allé voir aussi une agricultrice, Sylvie, qui a été exposée à des produits proches des pesticides, des détergents, qui était éleveuse dans les Côtes-d'Armor, et qui a vu son Parkinson classé comme maladie professionnelle, puisque depuis 2012 en France, Parkinson est classé comme maladie professionnelle pour les agriculteurs qui manipulent ce genre de produits.
La mère de cette journaliste a été exposée à ces produits insecticides.
Oui, c'est ça. Elle a été exposée toute sa vie puisque elle a grandi autour des vignes. Puis après, elle habitait dans la Beauce. Et c'est des régions où l'utilisation des pesticides a été intensive. Et elle n'était pas agricultrice, mais elle était exposée à ces produits en tant que riverain. Et se pose la question justement de l'exposition des riverains à ces produits.
Alors oui, quel est le rôle d'une exposition prolongée aux pesticides ou à certains métaux lourds? Et pourquoi l'exposition à ces pesticides ou à ces métaux peut favoriser l'apparition de la maladie de Parkinson, docteur Alexis Elbaz?
Alors, donc, en effet, c'est quelque chose qui est maintenant assez bien connu. On a fait beaucoup d'études en France sur ce sujet, donc pour montrer que l'exposition professionnelle aux pesticides, qui est associée à un risque un peu augmenté de maladie de Parkinson chez les agriculteurs, c'est très difficile d'identifier des pesticides précis parce que les agriculteurs ont tout au long de leur vie utilisé des dizaines voire des centaines de produits. Donc finalement, arriver à en identifier un, c'est très compliqué. La question qui se pose, effectivement, c'est aussi celle de l'exposition des riverains. Et on a fait aussi des études dans notre équipe pour montrer que les personnes qui vivent dans des régions très agricoles où on utilise beaucoup de pesticides ont un risque un peu augmenté de maladie de Parkinson. Alors, il y a probablement, dans la maladie de Parkinson, comme beaucoup de maladies neurodégénératives ou des maladies chroniques, une combinaison de facteurs qui s'associent chez une même personne pour favoriser l'apparition de la maladie. Alors, à la fois une exposition environnementale sur un terrain génétique, on parle alors d'interaction gène-environnement, où en fait il y a des personnes qui sont peut-être plus susceptibles à l'effet des pesticides, mais il y a d'autres facteurs, par exemple, alors on parle de facteurs de risque, c'est-à-dire des facteurs qui augmentent le risque, mais il y a aussi des facteurs qui protègent de la maladie, et ça c'est aussi important, comme l'activité physique, par exemple. On a fait beaucoup d'études maintenant qui montrent que faire de l'activité physique en milieu de vie, c'est-à-dire à nos âges, et bénéfique,
pour vous.
Mais même très jeune comme vous, est associé à un risque diminué de maladie de Parkinson à l'avenir.
Comment expliquer qu'il y a des populations plus jeunes qui sont touchées par la maladie de Parkinson ? Est-ce que ça s'explique par des facteurs environnementaux ? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs explicatifs, Alexis Elbaz ?
Alors, il n'y a pas de patients plus jeunes. Hein. L'âge moyen au diagnostic de la maladie de Parkinson est plutôt de l'ordre de 71 ans actuellement. Il y a 15% de patients qui sont diagnostiqués avant 65 ans, et ça c'est très important parce que ça veut dire que ce sont des personnes qui sont en âge de travailler, et nous on est très sensible au fait qu'il faut arriver à ce que les personnes maintiennent une vie normale, puissent garder leur travail tout en étant malades.
Mais comment on peut expliquer par exemple qu'un comédien comme Michael J. Fox ait eu la maladie de Parkinson plutôt jeune, pareil pour Joseph Coria. Comment ça s'explique que certaines personnes aient la maladie à la trentaine, par exemple, ou à la quarantaine ?
Comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a des formes génétiques, où il y a probablement des facteurs génétiques qui interviennent, et ces formes génétiques ont tendance, pas toujours, mais dans de nombreux cas, à débuter plutôt à un âge jeune. C'est aussi vrai que probablement on fait aussi mieux le diagnostic maintenant qu'il y a 40 ou 50 ans, mais ces formes précoces, disons très précoces, demeurent quand même très rares. Hein. En France, comme je vous disais, il y a 15% des patients avant 65 ans.
Professeur Velter, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non, tout à fait. En fait, nous, on voit des patients qui sont très jeunes. Après, c'est sûr que dans les centres, dans la majorité des cas, ces patients sont plus âgés et personnes plus jeunes, il y a probablement quand même une différence en termes d'évolution de la maladie. Dans les formes génétiques, on a, en fonction du type de maladie génétique, on va avoir des formes qui sont très 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 lentement progressives, avec des gens qui vont même des fois commencer à l'adolescence. C'est très rare, mais c'est possible. Avec des diagnostics qui vont survenir du coup tardivement. Mais des formes qui sont très améliorées par les médicaments, et puis qui vont pouvoir bénéficier de thérapies un peu plus invasives, dont vous avez parlé, ce qui n'est pas le cas pour les personnes qui vont commencer à 70 ans.
Joël nous écrit « N'oubliez pas de dire que la maladie à corps de Lévy est très souvent confondue avec la maladie de Parkinson, une maladie à corps de Lévy trop méconnue par certains médecins. Les conséquences peuvent être graves. » Marie-Laure Velter.
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on appelle la maladie à corps de Lévy, c'est... Alors, il y a quand même des discussions entre maladie de Parkinson, maladie des corps de Lévy. C'est probablement un continuum, quelque part. Mais en fait,
quelle est la particularité
de cette
maladie ?
La grande différence, c'est qu'il y a des troubles cognitifs importants. Il y a des phénomènes, les patients peuvent avoir des hallucinations, donc des troubles de la mémoire, des fluctuations de leur attention dans la journée, associées aux troubles moteurs qui sont comme ceux de la maladie de Parkinson.
Quels sont les médicaments qui permettent de ralentir la progression de la maladie ? Parce qu'à l'heure actuelle, on ne la soigne pas, la maladie de Parkinson. Quelles sont les différentes classes de médicaments ?
Alors, aujourd'hui, les traitements sont symptomatiques. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va remplacer le manque par une formule, enfin un médicament qui va faire en sorte que il y a plus de dopamine à l'intérieur du cerveau, mais on n'a pas de traitement qui a démontré formellement l'efficacité sur le ralentissement de la progression de la maladie. Il y a beaucoup de recherches. Il y a eu un traitement qui s'appelle, je ne sais pas si je peux dire des mots, mais
oui,
la rasagiline, qui a montré peut-être un décalage de progression. Donc, ça date d'il y a maintenant quelques années. Il faut voir sur la durée, au cours du temps. Et ce qu'il faut savoir aussi, quand même, c'est que il y a des traitements plus invasifs, comme de la thérapie génique, des cellules souches.
On y reviendra tout à l'heure.
Ça reste quand même encore des pistes de recherche.
Alexis Elbaz.
Alors, il y a aussi beaucoup de pistes de recherche autour de ce qu'on appelle le repositionnement de médicaments. C'est-à-dire que, c'est, comme vous savez, c'est très cher de développer un médicament. Les labos pharmaceutiques doivent investir des millions, enfin, ou des sommes très importantes. Et du coup, et ça prend très longtemps, et pour essayer d'accélérer la découverte de médicaments, il y a aussi des pistes de recherche autour d'essayer d'utiliser des traitements utilisés pour d'autres choses, pour la maladie de Parkinson. Et donc, il y a eu des résultats très intéressants récemment sur un antidiabétique. Alors, c'est encore de la recherche, hein, avec des effets de petite taille, mais voilà, il y a des voies d'espoir un peu dans ce genre de direction.
Écoutons un nouvel extrait du documentaire « Nos vies avec Parkinson ».
Vous prenez combien de médicaments par jour ?
Actuellement, je prends 17 comprimés. Ouais, voilà. Donc mon quotidien, c'est... je me nourris de comprimés. Au tout début du traitement, les agonistes de la dopamine, c'est la molécule Rekip, étaient peut-être surdosés et ça m'a développé des troubles du comportement avec... des achats compulsifs. On a réduit le Rekip et on a fractionné la prise le matin et le soir et ça s'est régulé.
Extrait de Nos vies avec Parkinson de Joseph Coria et Guillaume Leblond. Comment expliquer ces effets secondaires? Les traitements contre la maladie de Parkinson peuvent provoquer des effets indésirables graves, comme des pulsions de violence, de la dépendance, une sexualité compulsive. Comment ça s'explique, Marie-Laure Velter?
En fait, c'est le traitement... dopaminergique. En fait, la dopamine, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, elle agit aussi sur d'autres circuits qui ne sont pas que ceux pour la motricité. Il va agir sur des circuits, ce qu'on appelle la motivation ou les circuits émotionnels et vont donc entraîner ce qu'on appelle ce trouble du contrôle des impulsions. C'est-à-dire cette difficulté à lutter contre une envie forte et dans différents champs qui sont soit l'alimentation, soit l'achat, soit la sexualité, soit le jeu.
Tous les traitements contre la maladie de Parkinson dérèglent ce système de récompense lié à la dopamine et qui peuvent donc provoquer des compulsions et des addictions, ou c'est un certain type de médicament?
C'est plutôt ce qu'on appelle les agonistes dopaminergiques parce qu'ils vont agir sur certains types de récepteurs.
Et deux victimes, deux patients atteints de la maladie de Parkinson ont décidé de poursuivre le laboratoire GFK, le fabricant de l'un des médicaments concernés, le Rekip. Et donc, je renvoie à l'excellente enquête de la cellule investigation de Radio France sur ce sujet, l'enquête de Rosen Le Saint, disponible sur l'appli Radio France. Vous vouliez ajouter un mot, Joseph Corrien?
Oui, Cathy, la patiente qu'on suit, qui se fait opérer à Rouen, c'est ça, elle souffrait de troubles compulsif, d'un dérèglement lié à une surdose médicamenteuse. Et oui, c'est ça qui l'a fait arriver au bout de son traitement, en fait. Plus que les symptômes en eux-mêmes.
Alexis Elbaz.
Oui, ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est aussi pour ça que c'est important d'être suivi régulièrement par un neurologue, parce que le neurologue va vous poser des questions aux patients qui sont traités par ce type de médicament pour dépister ces symptômes qui sont souvent pas déclarés par les patients spontanément. Il faut interroger aussi l'entourage, le conjoint qui va venir en consultation, parce que les patients sont pas forcément et parfois ont honte aussi un petit peu de ces comportements. Donc c'est une des raisons c'est une des choses pour lesquelles c'est important d'être suivi régulièrement par un neurologue. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand on arrête ou on diminue ces traitements, les symptômes régressent. Donc voilà, il faut, c'est pas définitif.
Marie-Laure Walter.
Tout à fait, oui, tout à fait. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'on connaît quand même assez bien maintenant, depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs indiqué sur les médicaments. Et c'est vrai que les patients, on les informe maintenant tout de suite. Même dès qu'on engage le traitement, dès qu'on initie le traitement, on va informer les patients de ce risque d'effet secondaire. Et surtout d'alerter, de nous le dire et de ne pas en avoir honte. Parce que ce sont des comportements qui sont assez stigmatisants pour les patients.
10h43, il est l'heure de retrouver la chronique Quoi de neuf docteur d'Adrien Chaboche.
Ah ouais, ça me le fait là.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai docteur, je vous en prie, dites-le moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf docteur.
Sur France Inter.
Docteur Adrien Chaboche, est-ce que la médecine psychosomatique existe?
Cher Ali, j'espère que vous n'avez pas eu un chat dans la gorge. Moi, avec les infections de grippe, j'en avais plein le dos. Et je me suis beaucoup pris la tête avec un patient mal dans sa peau. Vous entendez bien, dans notre belle langue, on ne compte plus les expressions liant le corps et la santé. Mais finalement, qu'en est-il vraiment? Quand un patient souffre d'un symptôme qui touche un organe ou une fonction, par exemple dans notre émission aujourd'hui, le mouvement dans la maladie de Parkinson, ou encore l'expression du visage, ces atteintes ne sont pas seulement un symptôme en soi. Ce n'est pas juste le reflet d'une altération d'un organe ou d'une fonction. Ces symptômes sont aussi émotions. Colère, peur, fatigue, doute. On l'oublie trop souvent, mais l'expression d'une maladie n'est jamais seulement mécanique ou limitée à ses conséquences. Axel, cet homme hyperactif de 78 ans, me disait « Le diagnostic m'a soulagé en mettant des mots sur mes souffrances. Mais je ne suis plus celui que j'étais. » Cette maladie me bouffe. Les médicaments m'aident beaucoup, mais je ne me reconnais plus. J'aurais aimé qu'on m'aide à en faire quelque chose. Et on dit à nos patients qu'il faut accepter la maladie. Et c'est vrai, bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi pouvoir la comprendre. Alors au-delà des émotions, cela pose la question du sens. Le sociologue David Le Breton a exploré comment la douleur chronique ou la souffrance chronique affecte l'identité et la perception de soi. En le lisant et en entendant mes patients, je crois que la douleur détruit l'unité de l'individu. Et en touchant sa personnalité, peut dévorer jusque son existence. Alors dans toutes ces expressions françaises de notre langue, j'entends l'importance de la dimension symbolique dans la relation de l'humain à son propre corps. Mais même si ce n'est pas forcément faux, ce n'est surtout pas toujours vrai, attention. Surtout si c'est interprété sauvagement, par des proches, et même parfois par des médecins. Par exemple, si j'ai mal au dos et que mon travail me pèse, qu'on me dit que c'est à cause de ça, mais que je peux rien faire, c'est culpabilisant et ça renforcerait un sentiment d'impossible.
Alors que proposait Dr Chaboche?
Tout d'abord, il est du devoir du médecin d'accompagner le patient à explorer cette résilience. Par exemple, on pourrait dire... Comment votre maladie peut-elle faire partie de vous, mais sans vous définir totalement? Et puis, nous ne valorisons pas assez ou trop peu tout ce que le patient fait. Qu'est-ce que vous apprenez de votre corps, de votre mental, des forces que vous employez à mieux vous connaître et vous soigner? Si la qualité humaine d'écoute est au centre de tout, il y a aussi nombreuses études qui ont montré les bienfaits de la psychologie et des approches complémentaires qui viennent compléter le traitement consensuel. Les thérapies cognitivo-comportementales, la méditation, l'art-thérapie, l'hypnosothérapie systémique, la cohérence cardiaque, très nombreuses, elles ont été évaluées et ont une place complémentaire en ayant en commun le temps de l'écoute et de la parole que l'on considère encore trop accessoire alors qu'on sait qu'elle augmente l'adhésion aux soins, le sentiment de santé et la réhumanisation de la médecine. Alors Ali, non, il n'y a pas de médecine qui ne serait pas psychosomatique. Si les symptômes peuvent être identiques entre plusieurs personnes, chaque vécu est unique. Nous sommes tous un corps pensant, dont les mots ont besoin d'être pensés par les mots d'un autre humain.
J'imagine, Joseph Coria, que cette chronique fait écho à ce que vous vivez.
Oui, tout à fait. Et je repense aux propos du professeur Albas tout à l'heure sur l'exercice physique. Donc, il y a un traitement non médicamenteux qui peut améliorer la gestion des symptômes dans la maladie de Parkinson. Moi, je me rends bien compte que plus je fais de l'exercice physique, meilleure est mon hygiène de vie et plus mes symptômes me laissent tranquille.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi. Sur France Inter.
Quels espoirs contre la maladie de Parkinson? C'est notre thème ce matin avec l'émission Quête de santé sur France 5. Professeur Marie-Laure Velter, quels sont les espoirs? Énormément de questions en ce sens de nos auditeurs. Dites-nous un petit peu, quels sont les véritables espoirs?
En fait, il y a déjà, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a eu beaucoup de changements dans la prise en charge sur le plan symptomatique, sur l'amélioration des formes de médicaments qu'on va donner aux patients pour réduire les effets secondaires du traitement qui ont déjà été évoqués, qui sont soit ce trouble de contrôle des impulsions, soit ce qu'on appelle des fluctuations de l'effet du traitement au cours de la journée.
Est-ce que la stimulation cérébrale profonde, qui consiste à implanter des électrodes dans certaines structures profondes du cerveau, des électrodes reliées à un boîtier électrique situé sous la peau, est-ce que c'est proposé à tous les patients?
Non. En fait, il y a ce qu'on appelle des critères d'opérabilité pour proposer ce traitement qui va s'adresser à des patients qui sont plus jeunes que les 70 ans en général et qui ont surtout une forme qui est très améliorée par les médicaments, mais chez qui les médicaments sont source de nombreux effets secondaires. Donc quand on est dans ce profil, ça va pouvoir en fait remplacer le traitement dopaminergique par de la stimulation électrique.
Et je précise que ces électrodes envoient des impulsions électriques qui restaurent le fonctionnement normal des réseaux de neurones qui dépendent de la dopamine.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne fait pas fabriquer de la dopamine ou délivrer de la dopamine. Le fait de ne plus avoir de dopamine, ça fait des dysfonctionnements dans les circuits cérébraux. Et le fait de remettre cette électricité dans une structure spécifique va améliorer le fonctionnement de ces circuits et donc améliorer les symptômes.
Quels sont les motifs d'espoir, docteur Elbaz, professeur Velter?
Alors, peut-être un motif d'espoir, c'est qu'on connaît mieux les facteurs de risque de cette maladie, notamment aussi les facteurs de risque génétique, et on commence aujourd'hui à parler de prévention de la maladie de Parkinson, de la même manière que on commence à parler de prévention de la maladie d'Alzheimer ou de
Comment
la démence.
Comment on peut la prévenir, la maladie?
Ce dont on a commencé à parler, l'activité physique, l'alimentation saine est aussi associée à un risque diminué de maladie de Parkinson. Le repositionnement de médicaments est porteur de beaucoup d'espoir, et donc on sait, par exemple, l'incidence de la maladie d'Alzheimer est en train de diminuer dans le monde. Ce n'est pas encore le cas de la maladie de Parkinson, mais ce sont vraiment des pistes d'espoir, c'est d'arriver à prévenir cette maladie dans un certain nombre de cas.
Quand vous parlez de régime alimentaire, c'est par exemple le régime méditerranéen.
Exactement,
c'est à base de légumes, de céréales, de légumineuses,
de poisson,
peu de viande, du poisson, beaucoup de fruits, d'oléagineux, de l'huile d'olive. Voilà, c'est un régime qui fonctionne bien pour la sphère cardiovasculaire, mais qui également est bénéfique pour
les maladies neurodégénératives en général.
En général, oui. Parce que c'est tout le problème aussi lié aux problèmes vasculaires et à la neuroinflammation. Et on sait que ça va modifier quand même probablement ces mécanismes qui sont impliqués dans la survenue de ces maladies neurodégénératives.
Et pour accompagner les malades, il y a évidemment la kinésithérapie.
Oui, tout à fait, qui peuvent soulager notamment la raideur. Ou alors aussi améliorer la motricité fine, puisque c'est l'un des symptômes aussi, c'est la perte de motricité fine, et la kinésithérapie agit dans ce sens. Ouais.
Et donc, pour terminer, Alexis Elbaz, avec le vieillissement de la population, il y aura mécaniquement une augmentation des cas de maladie de Parkinson dans les années à venir.
Voilà, on l'a évoqué tout à l'heure, donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu au cours des 15 dernières années, c'est quelque chose qu'on voit dans le monde aussi, de manière générale. On considère que le nombre de patients de maladie de Parkinson a doublé en 20 ans. Beaucoup dans les pays en voie de développement, c'est énorme, bien sûr, et comme on l'a évoqué, avec des patients qui vont vivre plus longtemps, donc il y a besoin aussi de développer ces traitements de seconde ligne dont on a parlé, donc la stimulation cérébrale profonde. Il y a d'autres pistes comme les pompes à médicaments qui sont un peu moins invasives, plus faciles à mettre en place, et donc tout ça, c'est porteur...
Les thérapies géniques aussi?
La thérapie génique, bon, ça c'est vraiment du domaine de la recherche, mais les pompes, voilà, c'est quelque chose dont on se sert beaucoup aujourd'hui, qui a amélioré quand même la prise en charge des patients.
Question
également
très pratique, professeur Velter, est-ce qu'il y a assez de neurologues pour traiter à l'avenir?
La réponse est dans la question.
Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Alexis Elbaz, merci professeur Marie-Laure Velter, merci Joseph Coria. Je recommande vraiment l'enquête de santé diffusée demain soir à 21h sur France 5 avec des témoignages absolument formidables, remplis d'espoir. Une émission présentée par Marina Carrère-Dancos que vous pouvez également écouter sur France Culture dans Carnet de Santé le samedi à midi. Demain, on se demande pourquoi nos sociétés sont si indulgentes
vivante avec la beauté physique. Alors vous le savez, aujourd'hui nous célébrons le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, le 27 janvier 1945. J'aimerais que nous écoutions Raphaël Esraï, ancien résistant et ancien juif déporté au camp d'Auschwitz-Birkenau en 1944. Il avait 18 ans. Raphaël Esraï, décédé le 22 janvier 2022 et qui aurait eu 100 ans cette année. Il raconte au micro de Grand Bien Vous Fasse l'évacuation du camp par les nazis à l'approche de l'Armée Rouge. C'était le 31 octobre 2018.
Un transport terrible, parce que nous avons fait les marches, j'ai fait les marches de la mort lors de l'évacuation du camp d'Auschwitz. Et ensuite, ce que nous appelons les trains de la mort entre le camp de Gross-Rosen et Dachau. Nous avons été enfermés dans des wagons à bestiaux et nous étions serrés comme des allumettes, véritablement les uns contre les autres, avec des gens qui étaient de nature différente, des juifs, des non-juifs, des gars qui avaient été ce qu'on appelait nous des proéminents, c'est-à-dire des gars qui en quelque sorte faisaient marcher le camp à la place des autres. Et par conséquent, nous étions serrés. Nous nous sommes battus les uns les autres parce que les uns se mettaient, voulaient prendre de la place, etc. On s'est trouvés dans des conditions extraordinaires et pendant 7 jours, sans manger, sans boire, nous sommes restés 7 jours sans manger, sans boire, le wagon est devenu un tombeau roulant. Un tombeau roulant. Et dans ce tombeau roulant, où j'ai vu tellement les morts se mettre au milieu du wagon, et j'ai dit, si un jour je reviens, je dois aussi, comme les autres, crier au monde ce qu'on a fait au monde, ce que des hommes sont capables de faire.
Mon ami Raphaël Esraï, le 31 octobre 2018, dans Grand Bien Vous Fasse, 80 ans après la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, alors que certains réhabilitent les crimes de l'hitlérisme. Écoutons les survivants Ginette Kolinka, Esther Seno, Judith Elkan-Hervé, et lisons leurs témoignages, comme celui de Ginette Kolinka, retour à Birkenau, ou celui de Raphaël Esraï, l'espérance d'un baiser. Ces deux témoignages parus au livre de poche. Je retrouve demain dans Grand Bien Vous Fasse.
Grand Bien Vous Fasse, un podcast France Inter.